OK, troisième heure. Troisième heure, on va parler avec Kim Clavel, la boxeuse, parce qu'elle fait partie des personnalités que le prestigieux magazine Time a nommées comme femme emblématique de sa génération. C'est un très, très grand honneur. On va parler à l'ancien joueur du Canadien, Maxime Lapierre, également, ce que c'est que d'être un Québécois francophone et jouer pour le CH. Valérie Roberts, évidemment, va venir nous visiter pour la fin de cette émission, la fin de la semaine. Mais d'abord, on commence avec Luc Lavoie. Luc, ton scoop de début d'émission a fait beaucoup de millage. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose, peut-être les réactions?
Ben, à l'heure actuelle, il n'y a pas encore de réaction. Hein. Ça commence simplement à circuler.
Sur les réseaux, je vais te dire, il y a pas mal de...
Ah, sur les réseaux, j'ai pas le temps
Non, mais le citoyen, il y a des citoyens qui sont découragés, là, qui disent, ben voyons donc, ça va-tu finir comme Normando, puis finalement, ça tu sais, l'enquête va foirer, puis il n'y arrivera rien.
Ben d'abord, faut faire attention de pas tout mélanger. Là. Il n'y a jamais eu d'accusation portée contre Jean Charest, alors ça peut pas finir comme Normando. Hein? Normando, c'est retrait des accusations à cause de
des délais. Tu comprends. C'est l'échec. Ça finit encore en échec. Tu comprends?
Ben d'abord, premièrement, Bernard.
Oui.
Honnêtement.
Oui, Luc.
On n'aurait jamais dû savoir qu'il y avait une enquête appelée Machuré.
Okay? Oui.
Ça fait partie des choses les plus confidentielles qu'on confie à l'État, c'est-à-dire le devoir et la capacité de faire enquête quand on pense qu'il y a des crimes qui ont été commis. Maintenant, protéger ces informations-là, c'est fondamental. Je sais pas, moi, à l'heure actuelle, au Canada, on va avancer un chiffre. Il y a 200 000 enquêtes policières. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est 300, mais on va dire 200 000 enquêtes policières. S'il fallait que tous les morceaux de ça coulent, que tout le monde sache, « Hey, mon voisin est sous enquête. Hey, l'autre là-bas est sous enquête. Hey, savais-tu que lui, il l'enquête pour des affaires de pédophilie? Hey, ça n'a pas de bon sens.
Mais là,
ça n'a pas de bon sens. »
Dis-le, pourquoi ça n'a pas de bon sens, par exemple? Ça n'a pas de bon sens parce que c'est pas parce qu'il y a une enquête que tu es coupable. C'est ça, là.
La matière qui est recueillie pendant une enquête, c'est quand on la met bout à bout puis qu'on dit « Oh là là, un crime a été commis. » Pas à mi-chemin, pas en plein milieu, pas sur la base de... Tu sais, je sais pas si tu te souviens certainement de la fuite, la plus grosse des fuites, là. Tu sais, combien de fois il a traversé la frontière américaine? Combien de fois il a parlé au téléphone à M. Bibeau? Combien de fois... Écoute! Si c'est pas de l'information privée, je sais pas qu'est-ce qu'il est. Alors, éventuellement, Charest, ça fait 8 ans que lui et sa famille vivent avec ça. L'épée de Damoclès au-dessus de la tête, ils savent jamais c'est quoi, ils reçoivent un téléphone, hey, la police est venue me voir, ils veulent savoir si c'est quoi le pont d'or que le parti t'a fait pour t'amener au pouvoir en 90, à la tête du parti en 98. Le pont d'or? Le pont d'or, puis on parle de gens, là, ils sont allés voir des gens là, très, très haut placés dans la société québécoise. Là.
J'ai enquêté sur le pont d'or, moi.
Oui, mais alors, ils ont envoyé, écoute, je sais pas s'il veut que je le dise, mais je vais le dire quand même, ils ont été voir des gars comme Lucien Bouchard, ils sont arrivés dans son bureau, « Monsieur Bouchard, dites-nous donc ce que vous savez sur le pont d'or, êtes-vous malade? » Êtes-vous malade?
Le pont d'or, là, résume la thèse, si tu veux, là, peut-être
la
que
thèse,
tu veux pas.
Ouais.
Non, mais c'est une thèse.
La thèse, c'est que quand il est arrivé au Parti libéral, il y a des gens, pour l'amener ici, alors qu'il était chef du Parti conservateur à Ottawa, qui ont mis de l'argent dans une cagnotte d'une façon ou de l'autre pour faciliter et l'encourager à venir ici. Ça, c'était la thèse. Elle n'a jamais été démontrée. Jamais. La seule affaire qu'ils ont pu démontrer, c'est qu'il recevait un salaire du Parti libéral. Il était loin d'être le premier. Puis la seule différence avec Mario Dumont, c'est qu'il recevait il recevait deux fois plus que Mario. Bon, Mario aussi était payé par son parti, puis il faisait rien d'illégal, puis c'est une pratique qui a cours depuis très, très longtemps, puis que j'y vois absolument rien de mal, comprends-tu? Alors, c'est sûr que tôt ou tard, Charest allait poursuivre. Ça peut pas continuer comme ça éternellement. Je sais qu'il vit l'enfer. Je le connais. C'est vraiment l'enfer. Quand est-ce que ça va arrêter?
D'accord. OK. Ben on va voir la suite. OK? On va voir la suite. Là, tu as préparé un petit tour d'horizon de la COVID. Fais-nous ça. Mettons les 2-3 points chauds là, qui retiennent ton attention, parce qu'après ça, on va aller rejoindre Valérie Beaudoin pour parler un petit peu de ce qui se passe aux États-Unis, parce que Trump est plus que jamais... actif, on va dire.
Mais je commence mon tour du monde en allant à l'échelle du Canada, y inclut le Québec.
Ouais.
On est en train d'établir un record de nombre de cas déclarés depuis le début de la pandémie. On a enregistré 2400 jeudi, un nombre qualifié, c'est le moins qu'on puisse dire, de préoccupant. Alors, sur la journée de jeudi, à l'échelle mondiale, 6408 nouveaux décès, 355 735 nouveaux cas. Puis c'est toujours les mêmes pays qui sont dans la pire situation, l'Inde, les États-Unis et le Brésil. Juste aux États-Unis, ils demeurent en avant de tout le monde, là, que ce soit en nombre de décès, en nombre de cas recensés, tout ça. En Europe, là, ça commence à devenir extrêmement préoccupant. Ça ne cesse pas d'empirer. En Allemagne, le nombre d'infections augmente particulièrement aujourd'hui. On parle de 4000 nouveaux cas en Allemagne. C'est beaucoup, beaucoup compte tenu de ce qu'ils ont vécu dans la première vague. En France, 18 000 nouveaux cas de contamination au cours des 24 dernières heures. C'est énorme, comprends-tu? En Italie, bon, là, ils ont imposé le port du masque partout jusqu'au 31 janvier. Si tu ne te conformes pas, écoute ça, l'amende est de 1 000 euros. Là. C'est comme 1 500 $ canadiens, là, tu comprends? Puis en Russie, ben, la pandémie est décollée pour la Loire comme il faut, là. Elle progresse à une vitesse d'enfer. 11 400 nouvelles contaminations dans les 24 dernières heures, presque égal au record établi au mois de mai. Et enfin, un dernier morceau, Broadway. Quand on pense à New York, on pense à Broadway. Broadway va rester fermé au moins jusqu'à la fin mai 2021. Broadway n'offrira pas de spectacle d'ici le printemps 2021. Alors voilà, en gros.
Très bien. Valérie Beaudoin, spécialiste de la politique américaine, nous t'accueillons. Alors, tu es là, Valérie, tu es là. Évidemment, tu continues à suivre pour nous ce qui se passe au sud de notre frontière. On est à 25 jours du vote. Et là, pour le moment, un seul autre débat entre Biden et Trump est à l'horizon, là, alors qu'il y en avait deux de prévus. Donc, le débat virtuel là n'aura pas lieu parce que Trump veut rien savoir, c'est ça?
Oui, ben en fait, Biden a décidé qu'il allait faire un town hall qu'on appelle. En fait, il va avoir une entrevue, il va avoir des gens du public qui vont lui poser des questions. Donc, lui organise quand même quelque chose le 15 octobre, mais vraiment, le débat présidentiel, ça va être le 22 octobre seulement, pour l'instant.
Ben, moi, je trouve ça habile. Luc, qu'est-ce que t'en penses? C'est habile de la part de Biden. Il sait qu'il va être couvert. CNN va être en direct. Puis, il n'y a rien à... honnêtement.
Ben, il joue pas le jeu de la chaise vide. Il va être là. Puis l'autre a juste à être là. Puis, ben, en passant, faire un débat virtuel. Toi et moi, Bernard, on a fait ça pendant un an à la joute. Tu sais, t'étais à Québec, puis j'étais à Montréal.
Ben oui. Je passais mon temps de donner des volées. Ça marche au bout.
Ouais, je t'en ai donné quelques-unes aussi. Ça marche au coton, cette affaire-là. Je recommande ça à tout le monde.
C'est bon. Aïe, aïe, aïe. Valérie, par ailleurs, 6 millions de personnes qui ont déjà voté?
Oui, aucun sens. En 6,6 millions de personnes, c'est 10 fois plus qu'en 2016 à pareille date. Ça, c'est pour vous dire à quel point que les gens, il y en a beaucoup qui ont déjà leur idée de fête par rapport à l'élection présidentielle du 3 novembre. Pourquoi est-ce qu'il y en a plus? Parce que c'est plus facile de voter d'avance. Parce que c'est plus facile de voter aussi par la poste. Parce qu'avant, il y avait beaucoup d'États où on devait avoir une excuse pour voter plus tôt ou demander de voter par la poste. Et là, désormais, là, mis à part à peu près 5-6 États, c'est vraiment, vraiment plus facile. Et on prévoit, là, il y a des chercheurs qui regardent là, l'élection et ces prévisions-là. Ils disent qu'il va y avoir 150 millions de personnes qui devraient voter le 3 novembre au total. Là, si on compte tous les bulletins de vote, ça serait un taux de participation de 65 % ce qui serait extrêmement élevé.
Ah, la dernière
ce
fois qu'on a vu
ça. Probablement le plus élevé depuis, ma foi, la Deuxième Guerre mondiale.
Oui, exactement.
65 % des Américains qui voteraient. Et si on est à 6 millions de votes... c'est quoi? C'est du vote postal et du vote par anticipation.
Exactement.
OK. Et une chose qui est intéressante, Bernard et Valérie, c'est que le nombre d'indécis est pas loin de zéro, là. 4, 3, 4, 5.
Oui.
Ça veut dire que le vote est pas mal cristallisé, ça bouge plus, là.
Bon. Par ailleurs, Trump, qui veut se relancer en campagne, possiblement un grand rassemblement en Floride samedi, peut-être en Pennsylvanie dimanche, alors qu'il n'a pas fini sa quarantaine.
Il n'a pas fini sa quarantaine. Je m'excuse, Valérie, je te laisse la parole dans une seconde, mais je l'ai écouté hier, je ne sais pas si vous l'avez entendu, à Fox News. D'abord, il a la voix très enrouée, et non seulement ça, il s'est étouffé et il a toussé profondément au moins 3-4 fois.
Hey, pauvre intervieweur, hein?
Mais moi, je vous propose, puis la dernière fois qu'on l'a vu à l'écran, c'est il y a 2 jours, juste avant le débat Kamala Harris-Mike Pence, on voyait qu'il y avait une joue comme gonflée, tout le monde qui a regardé l'a remarqué. Moi, je vous dis que nous assistons présentement à une tragédie grecque. Je pense que ça se pourrait qu'il soit très, très malade.
Oui, puis ce soir, si les gens veulent le voir en entrevue, sa première entrevue télévisée, c'est ce soir à Fox News, justement avec Tucker Carlson, et il va avoir cet examen médical en direct. Et là, c'est pas une blague, hein. Il va avoir un examen médical par un médecin qui va l'évaluer
de façon
Fox.
Virtuelle?
Oui, en fait, ils vont pas être à la même place, et le médecin de Fox va donner son opinion sur la santé Donald Trump en direct. On est rendu là. Ça, c'est une des choses.
Écoute, c'est pas de la politique spectacle, c'est de la médecine spectacle.
Ah, oui, en effet. Des deux côtés, hein, ça évalue. Là, les médecins de CNN qui évaluent comment Trump tousse et qu'est-ce que ça veut dire. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Et ce qu'il a dit à Fox, d'ailleurs, hier, c'est qu'il voulait recommencer les rallyes, qu'il avait eu le feu vert de son médecin, qui, lui, est d'ailleurs très controversé. On comprend pas parce qu'il n'y a pas encore eu de test de COVID négatif. Mm. Mais là, la Maison-Blanche semble reculer. Elle dit, écoutez, logistiquement parlant, ça risque d'être difficile à la dernière minute d'organiser un rallye. Donc, on sent qu'eux veulent reculer et que c'est peut-être le président qui a dit ça pour démontrer que lui était prêt et lui voulait retourner sur le terrain.
Moi, je pense qu'il n'est pas capable. Il n'est tout simplement pas capable. Il n'a pas la force physique. Il est un être humain, après tout.
Il y a 74 ans, là?
Et 74 ans. Et bon. Puis, il est encore sur les stéroïdes. Les stéroïdes ont pour effet, entre autres, de donner l'impression que le mal est parti, mais c'est pas le cas du tout.
OK. Là, je veux revenir. Il nous reste 3 minutes sur l'attentat déjoué contre la gouverneure du Michigan. D'abord, Valérie, rappelle-nous les faits rapidement, là.
Oui, en fait, c'est hier qu'on a appris ça. La gouverneure démocrate du Michigan, qui est une ennemie politique de Donald Trump, ça, c'est une des choses qui ressort. Elle, on a déjoué, alors des gens du FBI qui ont déjoué en fait, on voulait l'enlever, lui faire son procès, je mets des guillemets ici, pour trahison. Ouais. Alors, on imagine quelle serait l'issue de
une
ce
procès-là. Une arrestation citoyenne, là, comme celle dont on parle. Ouais,
exactement.
Voilà.
Alors, on planifiait avoir des explosifs, il y avait des armes à feu. On dit que c'est des gens qui sont anti-gouvernement et suprémacistes blancs, entre autres, qui voulaient organiser tout ça. Et on se rappelle qu'au Michigan, pour les images qui ont fait le tour du monde, les gens, là, au printemps, on était contre le confinement. Il y avait des gens armés qui étaient rentrés dans le Capitole légalement. Et il y a des gens qui se promenaient aussi avec des poupées pour représenter Gretchen Whitmer, la démocrate, avec une corde, là, vraiment pour dire qu'elle allait la pendre. Alors vraiment, là, c'est une tension au Michigan. On a déjoué ça et là, c'est rendu très, très politique parce que la gouverneure dit que Trump est un peu... il y a une faute parce qu'il n'a pas dénoncé les suprémacistes blancs directement.
Il a fait pire que ça, finalement. Il a fait pire que ça, il a écrit en toutes lettres « Libérez le Michigan ». Hey, t'as des milices qui sont là, ils ont compris quoi, eux autres? Ils sont déjà un peu fous.
Ils veulent renverser le gouvernement, carrément. Oui.
Puis il a attaqué Trump après qu'on ait su que la gouverneure avait fait l'objet de cette tentative d'enlèvement, là, de ce complot pour l'enlever. Si je me trompe pas, il a tweeté pour dire qu'elle avait été horrible comme gouverneur. Là, plutôt que de condamner les suprémacistes qui voulaient enlever la gouverneur, il a attaqué la gouverneur.
Exactement.
Mais là, j'ai comme l'impression que ce que dit Trump depuis environ 1 semaine, 10 jours, ça a plus aucune résonance. Il dit n'importe quoi, puis tout le monde s'en balance.
Puis ça revient un peu au point que tu énonçais tout à l'heure, c'est-à-dire les gens, leur idée est faite, là.
Ouais. Puis lui, il joue la terre brûlée, là. Il essaye de faire mal partout ce qu'il peut, comme s'il veut descendre tout le monde avec lui.
OK. Ben Valérie Beaudoin, merci de continuer à suivre ça pour nous. On va se reparler la semaine prochaine. Je te souhaite un bon week-end.
Merci à vous aussi.
Salut, Valérie.
Et Luc, je te garde encore un peu parce que je fais Maxime Lapierre en entrevue tout de suite après la pause. Et puis, on va faire ça ensemble. Qu'est-ce que t'en dis?
Avec plaisir.
OK. Maxime Lapierre, ancien joueur du Canadien. Bougez pas.